Bonjour, frères et sœurs. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Ben oui, Jésus est un ami fidèle et tendre et Paul a pu l'expérimenter en nous voyant son histoire dans le livre des Actes. Et au point où nous sommes rendus dans notre étude des Actes, Paul est en prison à Césarée. C'est quand même une prison de luxe, si on peut dire. C'est pas un cachot dans un sous-sol. Il a quand même une certaine liberté. Il a même accès à... Il peut même recevoir des invités, la famille, ses proches qui viennent le voir. Mais il est quand même lié. Il ne peut pas sortir de la maison du prétoire d'Hérode, on pense où il était, là où était le gouverneur Félix. Et ça fait 2 ans qu'il est là, gardé sous la garde des soldats de Félix, le gouverneur romain. On se souvient, on a vu il y a 2 chapitres de cela, il a été arrêté à Jérusalem. Donc Paul revenait d'un 3e voyage missionnaire. Il était à Jérusalem, venir apporter des aumônes, des offrandes à Dieu, venir évangéliser ses frères, ses compatriotes. Mais ça a mal tourné parce que ses ennemis l'avaient suivi, les Juifs d'Asie. Et ils ont soulevé la foule contre lui. Il a été jeté hors du temple, traité comme un criminel au point où ils voulaient le faire mourir sur place. Mais le tribun est intervenu avec les soldats romains. Ils l'ont emmené dans la forteresse pour l'interroger. Parce qu'il semblait être la cause de l'émeute. Mais en même temps, Dieu a permis que ce soit une manière de le protéger. Il a eu la vie sauve. Et par toutes sortes de circonstances, on a vu la main de Dieu diriger les événements et les hommes et les femmes. Mais Paul s'est finalement retrouvé à Césarée. Il a été conduit là par le tribun, protégé par 400 soldats. Donc même l'attentat que les Juifs avaient planifié contre lui pour le mettre à mort a échoué. Il s'est retrouvé sain et sauf sous la protection de Félix, le gouverneur. Et ça n'a pas été long, là. Quelques jours après, les Juifs sont descendus plutôt à Césarée, qu'on dit dans le langage biblique. Ils sont descendus à Césarée pour l'accuser. Et Paul a eu l'occasion de se défendre. Et Félix, en écoutant les accusations contre lui et les arguments de Paul, il a conclu finalement qu'il n'y avait pas cause à le condamner. Il n'était coupable de rien au niveau de la loi romaine. Mais pendant 2 ans, Félix n'est pas arrivé à un verdict. Pourtant, Félix était juge, il aurait dû rendre un verdict, mais il a laissé, on peut dire, poireter Paul en prison. Souvent, il l'a fait venir auprès de lui pour l'écouter, entendre le message de l'Évangile, mais finalement, il n'aimait pas l'Évangile que Paul lui prêchait, parce que Paul parlait de justice, de jugement à venir, de maîtrise de soi, et Félix avait peur lorsqu'il entendait ces mots. Mais il continuait à faire venir Paul auprès de lui, espérant recevoir de l'argent pour sa libération. On sait, d'après les historiens, que Félix était un homme corrompu, qui n'hésitait pas à utiliser la force très violente pour maîtriser des émeutes, même des assassinats pour ceux qui étaient une menace à son pouvoir, et recevoir des pots de vin aussi. Mais quand même, Dieu a permis que Paul soit sous sa garde pendant 2 ans. Et Paul semble être dans l'impasse. Quand on lit le livre des Actes pour la première fois, puis on arrive à ce passage-là, on se dit, coudonc, comment Paul va faire pour s'en sortir? Parce que Félix ne rend pas de verdict, il avoue que Paul est innocent, mais il ne le laisse pas partir. Et il ne se convertit pas à Jésus-Christ non plus. Donc c'est comme si Paul prêche à quelqu'un qui n'a pas d'oreille pour entendre, et finalement ça n'aboutit pas. Mais au bout de 2 ans, Dieu, on voit que Dieu intervient, et il permet que Félix soit démis de ses fonctions. Et c'est un nouveau gouverneur qui arrive, Festus. Festus lui succède. Je vous invite à prendre votre Bible dans Actes 25. Même si je la lis pour vous, c'est bon vous-même de la lire. Que ce soit sur une tablette, un téléphone, ou même, moi je vous recommande personnellement, une Bible papier, autant que c'est possible. Ça existe encore, là, je pense, aujourd'hui. En tout cas, j'en ai une dans les mains. C'est une preuve que ça existe encore. C'est vrai que depuis la pandémie, on utilise beaucoup moins que le papier là, qu'avant, mais c'est bon, on peut souligner des passages, prendre des notes, on se l'approprie, là. Alors, lisons ensemble. Actes, chapitre 25. 3 jours après son arrivée dans la province, Festus monta de Césarée à Jérusalem. Les principaux sacrificateurs et les notables d'entre les Juifs portèrent plainte auprès de lui contre Paul. Ils le sollicitaient à cet effet et lui demandaient, comme une faveur, de faire venir Paul à Jérusalem. En réalité, il préparait un guet-apens pour le tuer en chemin. Festus répondit que Paul était gardé à Césarée et que lui-même devait partir sous peu de toute façon pour retourner à Césarée. « Que ceux d'entre vous, dit-il, qui le peuvent, descendent avec moi, et s'il y a quelque chose de mal chez cet homme, bien qu'il l'accuse. Festus ne séjourna pas plus de 8 à 10 jours parmi eux, puis il descendit à Césarée. Le lendemain, comme il siégeait au tribunal, il donna l'ordre d'amener Paul, et quand celui-ci fut arrivé, les Juifs descendus de Jérusalem l'entourèrent et portèrent contre lui de nombreuses et graves accusations, mais qu'ils n'étaient pas capables de prouver. Paul disait pour sa défense, « Je n'ai péché en rien, ni contre la loi des Juifs, ni contre le temple, ni contre César. » Festus, qui voulait s'assurer les bonnes grâces des Juifs, répondit à Paul, « Veux-tu monter à Jérusalem pour y être jugé là-dessus, devant moi? » Et Paul dit, « Je me tiens devant le tribunal de César, et c'est là que je dois être jugé. Je n'ai fait aucun tort aux Juifs, comme tu le sais toi-même fort bien. Si j'ai des torts, et si j'ai commis quelques actions dignes de mort, je ne refuse pas de mourir. Mais s'il n'y a rien de vrai dans leurs accusations contre moi, personne ne peut me livrer à eux. J'en appelle à César. » Oh. Alors Festus, après avoir délibéré avec le conseil, répondit, « Tu en as appelé à César, tu iras devant César. » Quelques jours après, le roi Agrippa et Bérénice arrivèrent à Césarée pour saluer Festus. Et comme ils passaient là plusieurs jours, Festus exposa au roi le cas de Paul. Et il dit, « Félix a laissé prisonnier un homme, contre qui, lorsque j'étais à Jérusalem, les principaux sacrificateurs et les anciens des Juifs ont porté plainte pour demander sa condamnation. Je leur ai répondu que les Romains n'ont pas coutume de livrer à la mort un homme avant que l'accusé soit confronté à ses accusateurs et qu'il ait eu l'occasion de se défendre contre cette accusation. » Ils sont alors venus ici et sans aucun délai, j'ai siégé le lendemain à mon tribunal et donné l'ordre d'amener cet homme. Ses accusateurs, s'étant présentés, n'ont mis à sa charge aucune des mauvaises actions dont je le soupçonnais. Il n'avait avec lui que des discussions relatives à leur religion particulière et à un certain Jésus qui est mort et que Paul affirme être vivant. Quant à moi, perplexe à propos d'un débat de cette sorte, je lui ai demandé s'il voulait aller à Jérusalem pour y être jugé là-dessus, mais Paul a fait appel pour que sa cause soit réservée à la compétence de l'empereur. Et j'ai donné l'ordre de le garder jusqu'à ce que je l'envoie à César. Agrippa dit à Festus, « Je voudrais moi aussi entendre cet homme. »« Demain, répondit-il, tu l'entendras. » Le lendemain, donc, Agrippa et Bérénice vinrent avec beaucoup d'apparat et ils entrèrent dans la salle d'audience avec les tribuns, les gens haut placés de la ville. Sur l'ordre de Festus, Paul fut amené. Alors Festus dit, « Roi Agrippa, et vous tous présents avec nous, vous voyez cet homme au sujet de qui toute la multitude des Juifs est intervenue auprès de moi, soit à Jérusalem, soit ici, en clamant qu'il ne devait plus vivre. Mais pour moi, j'ai compris qu'il n'avait rien commis qui soit digne de mort. Mais lui-même, en ayant appelé à l'empereur, j'ai jugé bon de le lui envoyer. Mais je n'ai rien de précis à écrire au souverain sur son compte. C'est pourquoi je l'ai fait comparaître devant vous, et surtout devant toi, roi Agrippa, afin d'avoir, après l'interrogatoire, quelque chose à écrire. Car il me semble absurde d'envoyer un prisonnier sans indiquer les motifs qu'il y a contre lui. Ça a bien du bon sens. Donc, dans ces différentes scènes, on voit comme un épisode là, dans la vie de Paul, et la caméra est braquée tantôt sur Paul, tantôt sur Festus, tantôt sur Agrippa, les Juifs, mais on se rend compte qu'en réalité, le maître en scène qui dirige tous ces acteurs-là, c'est Dieu. En fait, c'est un des points importants sur lequel le livre des Actes insiste. Je ne sais pas si l'auteur, Luc, était conscient de tout cela, mais le Saint-Esprit certainement. Ça fait déjà plusieurs reprises qu'on le mentionne dans les voyages missionnaires de Paul, ou même dans les débuts du livre des Actes. On voit Dieu à l'œuvre, même lorsqu'il n'est pas mentionné. Comment Dieu intervient pour que le concours des circonstances, finalement, arrive, aboutisse à ce que Dieu a choisi et décidé d'avance. Donc, on voit en parallèle l'action souveraine de Dieu, et on voit aussi Paul qui prend des décisions. est une décision très importante d'en appeler à César, qui aura un impact sur tout le reste de sa vie. Le reste de son ministère, ça aura eu un impact majeur même dans l'avancée de l'Évangile là, qui va pénétrer à Rome. Mais c'est parti de la tête de Paul. Paul a pris la décision. Donc, on voit comme un tandem, si on peut dire, un parallèle. En même temps que Dieu travaille pour orchestrer tous les événements, son serviteur Paul prend des décisions avec la sagesse et les connaissances qu'il a, sans connaître tous les détails du plan de Dieu. En fait, c'est les deux points qu'on va méditer ce matin. Premièrement, que Dieu appelle ses serviteurs, ses enfants, vous et moi, à prendre des décisions dans notre service pour Dieu, et même des décisions dans la vie de tous les jours, des décisions quotidiennes, puisque tout est interrelié. On ne peut pas compartimenter notre vie chrétienne, notre service à l'Église, du reste de notre vie. Et Dieu nous demande de prendre des décisions en tant qu'enfant de Dieu, disciple de Jésus. Mais en même temps, Dieu orchestre tout cela, comme un grand casse-tête qui dépasse notre compréhension. Dieu orchestre toutes choses. Donc, on voit Paul, comme plusieurs fois c'est mentionné dans les Actes, qui prend une décision, mais par la foi en Dieu. Paul connaît son Dieu. Et sûrement que ces deux années dans la prison, il a eu souvent l'occasion de témoigner, mais il a eu du temps aussi pour méditer. On pense qu'il a peut-être écrit certaines lettres alors qu'il était justement emprisonné à Césarée. Et il a pris du temps pour se rappeler les promesses de Dieu. Il connaissait son Dieu, il avait foi en lui. Et c'est pour ça qu'il reste si confiant, plein d'assurance, devant des gens très intimidants, devant des gens qui veulent le faire mourir. On ne voit pas... En tout cas, rien n'indique que Paul est tout tremblant de peur. Il parle avec confiance. Il revendique un droit qui est juste en tant que citoyen romain. Donc, sa décision est extrêmement importante. Et on voit qu'il en appelle à César. Même. Puis, qu'est-ce qui a déclenché tout ça? C'est la fin du mandat de Félix et l'arrivée de Festus. Et ce n'était pas un hasard. Le nouveau gouverneur arrive, le nouveau gouverneur qui va superviser l'Empire romain, mais dans la province de la Judée, bien, toute de la Syrie. Donc, Festus est là et Festus est présenté par les historiens comme étant un homme de loin meilleur que son prédécesseur. Il arrive, il est même présenté par les historiens sous un jour favorable. C'était un homme bon, qui avait de bonnes intentions. On ne sait pas s'il s'est corrompu par la suite, mais il est arrivé en voulant appliquer la justice, faire le droit et maintenir l'ordre. Donc, on le voit... vouloir faire du bien, finalement. Mais il est comme pris entre l'arbre et l'écorce et il est pris avec un dossier que son prédécesseur a laissé traîner. Mais il semble, en tout cas, que c'est le seul gouverneur, selon les historiens, c'est le seul gouverneur que Rome a envoyé en Judée qui était bon, finalement, qui était honorable. Donc, comme on le voit dans ce passage-là aussi, il ne tarde pas, ça fait seulement 3 jours qu'il est en service et tout de suite, il monte à Jérusalem, aller rencontrer les dirigeants des Juifs, les chefs religieux. Il veut avoir une bonne entente, une bonne relation avec eux. C'est sage de sa part. Il veut gouverner avec justice. Donc, il paraît même honnête. Mais il n'a pas de connaissance de la religion juive. Donc, ça, c'est un désavantage par rapport à Félix, qui connaissait. Il connaissait même le christianisme. Festus, lui, a aucune idée de quoi les Juifs lui parlent. Il connaît ni la religion juive, ni la foi des chrétiens, les disciples de Jésus, il ne comprend pas non plus en quoi ça ne peut pas être compatible, quel est le nerf de la guerre, là. Mais ça ne prend pas de temps, là. Aussitôt qu'il est là-bas, les Juifs ne manquent pas de l'occasion, là. C'est comme s'ils sautent dessus, là, puis ils revendiquent la mort de Paul. Donc, ils portent plainte contre lui, ils veulent le faire venir. Festus va témoigner quand il parlera à son ami le roi Agrippa plus tard, que les Juifs n'ont pas seulement voulu porter plainte, ils ont réclamé sa mort. Ils ont dit clairement à Festus que cet homme-là devait mourir. Donc, c'était sous-entendu que ça fait 2 ans qu'il était censé être mis en mort et que ça traînait, là, cette cause-là. Donc, c'était une priorité dans son nouveau mandat. Il devait régler ce problème-là et livrer Paul. Donc, il demande à Festus, « Tu veux être en bonne entente avec nous? Voici la faveur qu'on te demande. » Peut-être que c'était même la seule faveur qu'ils avaient à demander. « Livre-nous, Paul. Fais-le venir à Jérusalem. » En réalité, il ne voulait pas le juger, même s'il disait qu'il était condamné d'avance. Il voulait le faire mourir avant même qu'il arrive à Jérusalem. C'est du déjà vu, hein? On a vu que c'est ce qu'il voulait faire lorsque Paul était prisonnier par le tribun à Jérusalem. Il voulait l'assassiner en chemin. On peut être surpris qu'après 2 ans, la haine des Juifs était encore aussi forte. ils étaient restés frustrés pendant ces deux années-là, et aussitôt que le gouverneur a changé, là, on revient à la charge. Ça peut être surprenant, mais cette haine-là, on comprend que c'est un combat spirituel. C'était pas seulement la haine contre Paul, c'était la haine contre le christianisme, contre ce Jésus qu'ils avaient crucifié des années auparavant et qui était encore là, son message était encore là, il leur faisait du tort. Ils perdaient de l'autorité, ils perdaient du terrain. Puis, donc, leur haine était dirigée contre Jésus, peut-être même inconsciemment, mais et elle était alimentée par Satan. Jésus a même dit que ces Juifs religieux étaient comme des fils de Satan, peut-être sans le savoir, mais et qu'ils agissaient comme leur père. Et Satan ne prend pas de vacances, il ne prend pas de relâche dans cette guerre spirituelle. Mais Festus ne se laisse pas manipuler. Je ne sais pas s'il a deviné qu'on voulait l'assassiner en chemin, probablement pas, mais il ne va pas se laisser manipuler comme ça. Et il a un prisonnier qu'il sait être gardé par les Romains. Je ne sais pas s'il savait à ce moment-là que Paul était citoyen romain. Mais il dit, c'est pas la coutume là, de livrer quelqu'un et qu'il soit condamné à l'avance sans même qu'il ait eu un jugement. Donc, je vais juger moi-même et je vous invite à venir, vous, à Césarée, pour l'accuser. Et c'est ce qui se passe environ une semaine plus tard. Là, Festus arrive à Césarée, puis il n'y a même pas une journée pour se retourner. Le lendemain, les Juifs sont là et tout de suite, il fait comparaître Paul. Donc, les Juifs sont là pour l'accuser sans perdre de temps. Et Luc nous rapporte qu'ils font de nombreuses et graves accusations contre Paul. En fait, il n'y a pas une description de ce dont on l'accuse, mais ça devait être très semblable à ce qu'on a vu la semaine passée, donc 2 ans plus tôt, où on pouvait résumer les accusations à trois chefs là, d'accusations. Premièrement, d'être une peste, donc quelqu'un qui est contagieux dans ses idées, sa pensée, son idéologie, et de semer le trouble dans l'Empire romain, dans tous les pays où il se rendait, dans toutes les provinces. Il semait la zizanie, un esprit de révolte, parce que les Juifs prétendaient être pour la paix romaine. Et ce Paul-là était une peste. Et en plus, il l'accuse d'être le chef de cette secte-là, la voix. Donc, tous les disciples de Christ, en réalité, seraient dirigés par un homme qui est Paul. Donc, que supposément que ses disciples suivent un Jésus qui est décédé depuis des années, c'est une supercherie. Le vrai chef, c'est Paul, selon eux, le chef des Nazaréens. Et il trouble l'ordre dans le pays parce qu'il va contre la religion officielle reconnue par Rome, la religion juive. Rome reconnaissait la religion juive comme étant officielle et même le temple comme un lieu sacré qui ne devait pas être profané. D'ailleurs, c'était la troisième accusation. Ils accusaient Paul d'avoir profané le temple ou d'avoir tenté de le profaner. Je ne sais pas c'était quoi leur version cette fois-là. Donc, des accusations quand même assez graves, et selon eux, ça justifiait qu'ils soient mis à mort. Mais, comme 2 ans auparavant, ils n'ont aucune preuve à fournir. Et quand on dit preuve, là, c'est pas nécessairement de l'avoir filmé sur le fait, là. Juste un témoignage, des témoins qui pourraient dire « Oui, j'ai vu Paul soulever des gens, parler en mal de la religion juive. J'ai vu Paul soulever un attroupement et dire « On va attaquer le temple. » Ou de parler en mal contre César. » Ils n'étaient pas capables de citer un seul témoin. Donc là, Festus rend la parole à Paul, qui peut se défendre. Et on ne voit pas ici toute la défense de Paul, mais Luc résume cela au fait que Paul dit qu'il n'a rien fait de coupable, ni contre la loi des Juifs, ni contre le temple, ni contre César. Et sûrement que Paul a présenté plusieurs arguments, même pour montrer qu'il n'est pas contre la loi, il n'est pas contre le temple, il n'est pas contre les autorités en place, contre César. Au contraire, son enseignement va dans le sens contraire, que la foi chrétienne est l'accomplissement de la loi, de la foi juive. Donc, il ne faut certainement pas la mettre de côté. C'est son accomplissement. Il n'a rien contre le temple. Au contraire, la présence de Dieu sur terre est toujours très importante, mais elle est magnifiée là, dans le fait que l'Église est son temple. Et il n'a rien contre César non plus. Il enseigne, tout comme Jésus, son maître, à honorer les autorités. Donc, il réussit à convaincre Festus que les accusations contre lui sont non fondés. Et Festus réalise que Paul est innocent au regard de la loi. Il va dire même plus tard à Agrippa, au verset 25, « Pour moi, j'ai compris qu'il n'avait rien commis qui soit digne de mort. » Mais il ne peut pas le relâcher aussi simplement parce qu'il veut être en bon terme avec les Juifs. Il veut avoir leur faveur, leur bonne grâce. Donc, ce n'est pas nécessairement de l'hypocrisie, mais il est pris entre l'arbre et l'écorce. Il ne peut pas tout simplement relâcher un prisonnier et que toute la nation juive, parce que tous les dirigeants de la nation qui semblent représenter toute la nation sont contre Paul. Ça commence mal son mandat, là. Donc, il offre à Paul de l'accompagner à Jérusalem pour subir un procès devant le Sanhédrin, j'imagine, mais en sa présence, comme si sa présence allait pouvoir le protéger ou assurer que la justice soit faite. Mais la raison aussi, il va l'avouer à Agrippa plus tard, c'est qu'il réalise que le différent entre les Juifs et Paul, c'est des questions religieuses et que lui, il n'y comprend rien. En tout cas, il ne comprend pas suffisamment pour être capable de juger qui a raison et qui a tort, là, ou si Paul a vraiment offensé les Juifs. Donc, il n'y connaît pas grand-chose. Mais Paul n'accepte pas la demande. Pour lui, retourner à Jérusalem, ça signifierait tout simplement être livré à Jérusalem, être livré à la mort. Un retour en arrière, là, finalement. Je vous invite à retourner à lire le verset 10 et 11, la réponse de Paul à cette offre de retourner à Jérusalem pour y être jugé. Verset 10. « Je me tiens devant le tribunal de César, et c'est là que je dois être jugé. Je n'ai fait aucun tort aux Juifs, comme tu le sais toi-même fort bien. » En fait, c'est un droit légitime, là. Paul dit « Je suis devant le trône de César. » Donc, c'est un représentant de César qui est là, qui doit me juger. Et toi, en tant que représentant de César, tu vois bien que je n'ai fait aucun tort aux Juifs. Pourquoi ce serait aux Juifs à me juger? D'ailleurs, je suis condamné d'avance. Il continue, si j'ai des torts et si j'ai commis quelques actions dignes de mort, je ne refuse pas de mourir. Donc, Paul n'est pas contre la justice et il n'essaie pas de fuir la justice. Au contraire, s'il peut avoir un procès équitable, il est prêt. Mais personne ne peut... Mais s'il n'y a rien de vrai dans leurs accusations contre moi, personne ne peut me livrer à eux. Donc, personne n'a le droit de me livrer à eux. Il est en train même de dire à Festus que s'il faisait cela, il outrepasserait ses droits. Il n'a pas le pouvoir de le livrer aux Juifs. Et après, finalement, il conclut en disant, « J'en appelle à César. » Festus devait être désarmé, il se tourne vers son conseil. J'imagine que ce qu'il leur a demandé, c'est est-ce qu'il peut faire ça? Est-ce qu'il a le droit de demander d'en appeler à César? Puis ses conseillers lui ont dit, oui, il peut demander cela. Il est citoyen romain. Donc là, il n'a pas trop le choix, puis il lui répond, tu en as appelé à César, tu iras devant César. L'histoire ne dit pas, hein, quand on arrive à la fin du livre des Actes, on ne sait pas si Paul va un jour rencontrer César. À l'époque, c'était Néron. Bon, je ne sais pas s'il était aussi fou au début de son règne qu'à la fin. Peut-être que si Paul a rencontré Néron, c'est ce qui a causé sa mort finale, mais de toute manière, Paul ici revendique d'être envoyé à Rome, finalement. C'est là où il doit se rendre, de toute façon. Et il accepte, donc Festus accepte de l'envoyer à César et il ordonne aux soldats de le garder sur place à Césarée jusqu'à ce qu'il l'envoie à Rome. Les Juifs devaient vraiment être déçus, frustrés de cela. C'est peut-être à ce moment-là qu'ils sont retournés à Jérusalem. Je ne sais pas s'ils ont persévéré à rester à Césarée pendant un temps, mais ils devaient être vraiment en colère, là. C'est comme si Rome les trahissait, là, puis protégeait finalement un criminel à leurs yeux. Donc Paul recevait enfin la confirmation qu'il allait aller à Rome. Jésus lui avait dit... Déjà 2 ans auparavant, on se souvient, Jésus lui est apparu pendant la nuit, alors qu'il était emprisonné par le tribun, puis il lui a dit de ne pas craindre, de ne pas avoir peur, parce que comme il avait témoigné de lui à Jérusalem, il allait témoigner de lui à Rome. Donc, Jésus allait être avec lui, le protéger, et c'est ce qu'il a fait, hein, jusqu'à maintenant, Jésus l'a protégé. Mais Paul ne savait pas plus de détails que cela du plan. Quand est-ce qu'il allait y aller? Qu'il allait aller à Rome, de quelle manière? Et là, enfin, il a la confirmation qu'il va y aller. Et en plus, sous la protection des Romains. Waouh, ça ne pouvait pas être mieux que cela. Et Paul va dire au chapitre 28, à la fin du livre des Actes, qu'il a été forcé de prendre cette décision-là, d'en appeler à César, à cause de l'acharnement des Juifs. Normalement, il aurait pu y aller à pied, peut-être accompagné par ses disciples, comme un quatrième voyage missionnaire, mais pour se rendre jusqu'à Rome, mais c'était impossible à cause de la haine et la collusion, là, la conspiration contre lui. Et un plan qu'il n'avait pas pu prévoir à l'avance, là, c'est qu'il allait y aller conduit sous la protection de Rome. Donc, on peut dire que c'est comme si la haine des Juifs a servi le plan de Dieu pour provoquer le départ de Paul. Et Paul savait que sa décision était conforme à la volonté de Dieu. Et c'est une décision qu'il a prise par la foi, connaissant son Dieu, sachant qu'il allait le protéger, mais sachant aussi que Dieu allait tenir promesse, que Dieu était fidèle. Il avait foi en son Dieu, et c'est pour ça qu'il a fait ce pas d'obéissance. C'est ce que Dieu attend de nous, en fait, que Dieu attend de ses enfants, que nous prenions des décisions courageuses. Courageuses parce que souvent, même toujours, on ne connaît pas ce qui va arriver, on ne connaît pas l'avenir. Mais parfois même, c'est comme noir devant nous pour le futur. C'est vraiment de l'inconnu. Et ça peut être désarmant, là. Est-ce qu'on va avancer dans cette direction-là? Quand tout montre que c'est la volonté de Dieu et que c'est conforme à la volonté de Dieu décrite dans sa parole, ça prend de la foi là, pour croire que Dieu va être là pour nous protéger, enlever les obstacles sur notre route, prendre soin de nous. La foi que Dieu est un ami fidèle et tendre qui va être là pour nous protéger, nous défendre. Et Paul avait cette foi-là. Mais c'est important lorsque nous avons des décisions à prendre. Ce que Dieu veut, c'est que nous prenions des décisions et même que nous demandions son assistance à Dieu, mais que la direction que nous prenions soit conforme à sa volonté. Vraiment que nous prenions une décision selon la volonté de Dieu. Même si on ne connaît pas tous les détails de son plan. Règle générale, on ne connaît pas ce que Dieu a préparé pour nous dans notre vie. On lit dans Éphésiens 2:10 que Dieu a préparé d'avance des bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Mais on n'a pas reçu une liste là, de la part de Dieu. Il ne nous a pas envoyé ça par email, un message texte pour nous dire « Voici ce que j'attends de toi » avec un ordre chronologique là, des événements pour la fin de nos jours. On connaît les grandes lignes de ce que Dieu attend de tous les chrétiens, de son Église. Et parfois, on peut être guidé par Dieu pour connaître des bribes de la volonté de Dieu personnellement pour nous, pour un plan personnel qu'il a pour nous. Mais la majorité du temps, on ne connaît pas les détails du plan de Dieu dans notre vie. Mais on avance par la foi, on marche par la foi, comme les hommes de Dieu qu'on voit dans la Bible. Par exemple, lorsque Dieu a demandé à Abraham d'aller sur la montagne pour sacrifier son fils Isaac, Abraham n'avait pas beaucoup de détails de quelle était la raison, pourquoi Dieu lui demandait ça. Mais il avait quelques choses, quelques détails qu'il connaissait. Dieu lui avait promis une grande descendance. Et il avait promis que c'était par son fils Isaac. Bon, ça, il le savait avec certitude. Il savait aussi que Dieu était capable de faire naître un homme, de donner la vie, alors qu'il y avait la mort. Parce que Sarah n'était plus en âge d'enfanter. Et pourtant, Dieu lui a permis de procréer, de faire naître Isaac. Donc, il était convaincu, comme on lit dans le livre d'Hébreu, que Dieu était capable, même si Isaac mourait, de le faire revenir de la mort. Et il savait que Dieu était bon pour lui. Il l'avait vu agir fidèlement envers lui. Il avait vu que Dieu tenait ses promesses. Donc, c'est les seules choses qu'Abraham savait, mais il a avancé par la foi. Et on voit comment l'histoire a tourné. Là, Dieu est intervenu pour préserver et pour protéger Isaac. Et il a fourni un agneau à la place. Un autre exemple, c'est le roi David, qui a été oint comme roi à son jeune âge. Il est encore un jeune homme, un berger. Il a été oint. Dieu lui a dit que ce qu'il attendait de lui, sa mission, son ministère, là, ça allait être d'être le roi de son peuple, le roi d'Israël. Mais il ne lui a pas dit quand est-ce que ça allait arriver, de quelle manière ça allait arriver. David ne savait pas qu'il allait passer de nombreuses années à fuir le roi Saül. Mais il a avancé par la foi. Il croyait qu'un jour il allait devenir roi, mais il ne voulait pas forcer les événements en allant contre la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'on le voit à plusieurs reprises, il a l'occasion de tuer Saül, mais il ne le fait pas. Il défend à ses amis de tuer Saül, le Messie loin, le oint de l'Éternel. Donc il attendait que Dieu intervienne. Donc c'était de l'inconnu pour lui. Mais il a avancé par la foi, sachant que Dieu tiendrait parole. Et toutes les décisions que David a prises, bien, la plupart, mais avant qu'il devienne roi, c'était conforme à la volonté de Dieu. Et Paul est un autre exemple aussi, ici, ce qu'il a su, C'est pas beaucoup quand même. Il a su de la part de Jésus qu'il allait être un évangéliste auprès des païens, dans toutes les nations. Quand est-ce qu'il allait partir? Il ne savait pas. Est-ce qu'il savait en quelle année qu'il allait être envoyé par l'Église d'Antioche, accompagné par Barnabas? Et est-ce qu'il savait qu'il allait faire 3 voyages missionnaires? Est-ce qu'il savait dans quel pays qu'il allait aller? Il ne savait rien de tout ça. Il avait su qu'il devait aller à Rome. Il ne savait pas non plus comment il allait y aller. Mais à plusieurs reprises dans son ministère, il a dû prendre des décisions. Il a agi par la foi en conformité à la volonté de Dieu. Donc, c'est ce que Dieu s'attend de nous, finalement, que nous prenions des décisions personnellement, en Église, en famille aussi, conformes à sa volonté. Ça ne nous assure pas qu'on ne connaîtra pas les souffrances. Les 3 exemples qu'on a cités, là, Abraham, David, Paul, ont connu la souffrance, même s'ils marchaient dans la voie que Dieu avait préparée pour eux. Donc, on peut vivre la souffrance, mais l'aboutissement est heureux, toujours, parce que Dieu est un Dieu bon qui veut notre bien. Nous sommes appelés à prendre des décisions, mais même si nous ne connaissons pas tout, nous devons agir au mieux de notre sagesse. Et là-dessus, il y a peut-être 3 types de chrétiens. Je ne sais pas dans quelle catégorie vous êtes, mais il y a des chrétiens qui prennent des décisions au quotidien pour le travail, le lieu d'habitation, même l'horaire, ce qu'ils vont faire de leur journée, leur service à l'Église. Mais toutes sortes de décisions qu'on peut prendre sans se soucier de savoir si c'est la volonté de Dieu ou non. C'est sûr que ce n'est pas un bon exemple de vie chrétienne, mais certains font cela. Peut-être qu'ils avaient démarré leur vie chrétienne du bon pied, mais ils ont oublié. Ils ont oublié l'importance de suivre la volonté de Dieu, ou même de se soucier si Dieu est d'accord ou non. Est-ce que c'est conforme à sa volonté? D'autres chrétiens disent vouloir suivre la volonté de Dieu, mais ils ne prennent pas la peine de la connaître, de la méditer, de faire en sorte de ne pas l'oublier. Ils ne prennent pas la peine d'étudier sa parole, qui nous révèle quelle est sa volonté. D'autres, un troisième type de chrétiens, méditent la Bible pour connaître Dieu et ne pas l'oublier. Ils la méditent régulièrement. Et lorsque l'occasion se présente, et même s'ils n'ont pas une longue période de réflexion, ils peuvent réagir, ils développent de bons réflexes qui plaisent à Dieu, qui est selon la volonté de Dieu. Ils lui font confiance et ils lui obéissent. Ça fait une grande différence dans la vie de tous les jours. On ne connaît pas beaucoup de détails sur ce que Dieu attend de nous, mais on connaît les grandes lignes qui sont suffisantes pour nous guider, là. On sait que tout ce que l'on décide doit glorifier Dieu. Donc, est-ce que vous avez une idée claire de quelles actions, quelles décisions, quels choix va honorer Dieu et quel choix va déshonorer Dieu? Ce n'est pas toujours clair. C'est pour ça que la lecture de la Bible quotidienne est si importante. On en vient qu'à comprendre, à saisir ce que Dieu aime et ce qu'il n'aime pas. Qu'est-ce qui va glorifier Dieu? Qu'est-ce qui va le déshonorer? On sait aussi que Dieu nous a confié une mission. On lit dans Matthieu 28, 18 à 20, « Jésus s'approcha et leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, l'énoncé de mission est au milieu. Il dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. » Donc, on est tous embarqués, les chrétiens, dans une mission globale d'évangéliser le monde. À commencer par où on se trouve, mais plus loin et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, d'inviter les gens à se convertir, à croire en Jésus, à se repentir, à être sauvés. Et pour cela, qu'ils entrent dans l'Église, qu'ils se fassent baptiser au nom de leur Sauveur. Et ensuite, on les enseigne à garder tout ce que Jésus a prescrit. Pour ça, il faut le connaître. Il faut savoir ce que Jésus nous a prescrit. C'est notre mission, mais on comprend aussi, et c'est entouré ça d'une parenthèse. Avant cela, Jésus dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Non, c'est Jésus qui a toute autorité. Et il ne dirige pas à distance, il dirige ses troupes sur le terrain. Il dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est un rappel à suivre la volonté de Jésus dans nos ministères, dans nos vies. On sait aussi un autre aspect très important de la volonté de Dieu, c'est de nous aimer les uns les autres. Jésus va jusqu'à dire que si on pratique ce commandement-là, on va accomplir toute la volonté de Dieu, toute la loi. nous aimer les uns les autres? Est-ce que les décisions que je prends ont un impact sur mes frères, sur mes sœurs, sur ma famille? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est par amour pour eux que j'agis? Ou si c'est par égoïsme, par orgueil, par cupidité, par soif de pouvoir, par désir de confort, par paresse, je ne sais pas. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent nous animer. Est-ce qu'on est animé par l'amour pour nos frères, l'amour pour Dieu? Puis une autre chose qu'on sait avec certitude, c'est qu'un jour, notre roi, Jésus, va revenir nous chercher. Puis on dirait que ce jour approche à grands pas. On a hâte que Jésus revienne. Il va nous prendre avec lui pour qu'on soit éternellement avec lui. C'est ce qu'on a chanté tantôt, on veut partager son éternité. Donc, on a une grande responsabilité à prendre. Mais on ne doit pas être désarmé. Dieu est là même pour nous fournir toute la sagesse dont on a besoin. Il a dit dans Jacques, si vous manquez de sagesse, demandez-la à Dieu, qui va vous la donner sans reproche. Dieu nous aime. Et Dieu fait en sorte aussi que, puisqu'on est ses enfants, il ne va pas nous laisser tomber dans le précipice parce qu'on ne l'avait pas vu venir. Il nous protège. Même dans nos décisions, il va nous diriger. Fermer les portes quand il ne veut pas qu'on aille par là. Nous saisir par la main là, pour nous ramener. Oh, c'est pas par là, faut que tu ailles. Un peu comme un papa prend soin de ses enfants. Il les surveille. Dieu, non seulement réagit à nos décisions, intervient, mais il orchestre tout. C'est là où la souveraineté de Dieu est si impressionnante. Et je me demande si Paul savait à quel point, lorsqu'il a demandé à Festus d'aller devant l'empereur, d'aller devant César, s'il savait à quel point il mettait Festus dans l'embarras. Parce que Festus n'arrivait pas à comprendre exactement pourquoi les Juifs lui en voulaient tant que ça. Pourquoi il y avait une si grande querelle, de quoi il était accusé au juste. Donc, il ne pouvait pas simplement l'envoyer à César, comme Paul lui le demandait, sans expliquer pourquoi il l'envoyait là-bas. Il ne peut pas envoyer un prisonnier pour qu'il soit jugé, sans avoir au moins une lettre qui explique de quoi il est accusé. Et cet embarras-là de Festus, ce n'était pas un hasard. Je pense que c'est Dieu qui a permis cela. Dieu a permis un gouverneur qui ne connaissait pas, que c'était nouveau pour lui, qui avait besoin de réfléchir, d'avoir de l'aide. Ce n'était pas un hasard, tout comme la visite du roi Agrippa n'était pas un hasard. Seulement quelques jours après, le roi Agrippa arrive à Césarée. Il vient le visiter. Lui connaissait la loi juive, puisqu'il était d'origine juive. Il arrive avec sa sœur, Bérénice. Ce n'est pas écrit que c'est sa sœur, mais on sait que c'est sa sœur. On dirait qu'ils forment un couple, là, Agrippa et Bérénice. D'ailleurs, c'est ce que la population pensait, qu'ils vivaient dans l'inceste. Donc, le roi Agrippa avait une très mauvaise réputation. Il était le fils d'Hérode Agrippa Ier, celui qu'on a vu dans Acte 12, qui persécutait les chrétiens, qui avait fait mettre à mort l'apôtre Jacques, qui avait saisi en prison, qui avait jeté en prison Pierre pour faire plaisir aux Juifs. Mais finalement, Pierre avait été miraculeusement libéré. Mais le roi Hérode Agrippa Ier, le père d'Agrippa, était tellement orgueilleux, voulait tellement se glorifier, que Dieu a dit, là, c'est assez, tu t'attribues une gloire qui est divine. Et il l'a fait mourir, rongé par les vers, les morts sur le champ. Donc, Agrippa II a pris sa place, puis il régnait sur l'un des territoires au nord de la Judée, en tant que roi, mais c'est sûr qu'il était sous la souveraineté de l'Empire romain. Il était juif, comme sa sœur Bérénice, mais il n'était pas parmi les Juifs. Il était considéré comme un traître, parce qu'il était du côté des Romains. Puis il vivait aussi une vie qui n'était pas conforme à la loi juive. Mais comme il restait là quelques jours pour saluer Festus, je ne sais pas s'il l'a pris à part, mais il ouvre son cœur et lui dit, j'ai un problème, là, parce que mon prédécesseur Félix, il m'a laissé comme une patate chaude entre les mains. Il y a un homme qui est accusé, puis je l'ai entendu, mais pour moi, il est innocent. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi les Juifs lui en veulent autant que cela. Et Paul ne veut pas être jugé par eux. Il en a appelé à César, mais je ne peux pas l'envoyer à César. Je ne sais pas de quoi il est accusé. Ça me prend au moins une lettre qui explique la situation. Ce n'est pas parce que Festus était stupide. Il avait même réussi à saisir c'était quoi le nerf de la guerre, le cœur du problème. Et il le dit à Agrippa. Les Juifs disent qu'un certain Jésus est mort, mais Paul prétend qu'il est vivant. Il s'est aperçu qu'en réalité, ce qui mettait vraiment les Juifs en colère, ce n'était pas le supposé peste, contagion, puis soulèvement, puis désordre, puis de même d'avoir supposément profané le temple. Ce qui mettait vraiment en colère les Juifs, Festus s'en était aperçu, c'est que Paul prétendait que le Christ était vivant, qu'il était ressuscité, lui que les Juifs avaient mis à mort, il était revenu, qu'il avait vaincu la mort et qu'il dirigeait l'Église. Ça, il ne pouvait pas le supporter. Et Festus avait vu ça. Alors, le roi demande à Festus, le roi Agrippa, il dit, « J'aimerais ça entendre Paul, moi aussi. » Et on va le voir la semaine prochaine, mais il va avoir l'occasion, justement, d'entendre un exposé où la divinité de Jésus est clairement mentionnée et le fait que Jésus est vivant est clairement dit. Donc, Paul pouvait l'affirmer sans honte, même au risque de passer pour un fou, on va le voir. Mais Paul ne gênait pas parce que c'est ça le cœur du message de l'Évangile. Et c'est encore ça aujourd'hui, le cœur du message de l'Évangile. Pour être sauvé de la condamnation éternelle en enfer, pour avoir la vie éternelle, partager l'éternité avec Dieu, il faut croire que Jésus est vivant. Ce n'est pas qu'un personnage historique qui a été rejeté par son peuple. Il faut croire que Jésus est vivant aujourd'hui, en 2021, qu'il nous voit, qu'il est présent, et qu'un jour, c'est lui-même qui va juger les justes et les injustes, les vivants et les morts. Et pour être sauvé, il faut croire que Jésus est mort pour nous, mais qu'il est vivant, qu'il est notre Seigneur. Il faut croire aussi, pour réussir à marcher dans la foi, réussir à marcher une vie d'obéissance en Dieu, il faut croire que Jésus est vivant. Il faut être conscient qu'il est vivant, qu'il est là, présent. Que lorsque nous prenons une décision, nous risquons de l'attrister, comme nous pouvons aussi faire sa joie. J'espère que vous croyez qu'il est vivant. J'espère que vous ne l'avez pas oublié, que ce n'est pas seulement une connaissance dans un tiroir profond de votre mémoire, mais qu'il est vivant et que vous en êtes conscient tous les jours. Le lendemain, comme Festus avait accepté qu'Agrippa puisse entendre Paul, Agrippa arrive avec Bérénice dans tous les apparats, donc j'imagine des grands vêtements royaux, ça devait être très impressionnant. Et tous les dignitaires sont là, donc la grosse gomme là, de Césarée est là, les tribuns, les dignitaires, les riches, les puissants sont tous assemblés. Et ils entendent Paul, je ne sais pas si Paul était seul au milieu, mais dans des vêtements très humbles, un pauvre juif. Ça devait être intimidant. Et Festus s'adresse à l'assemblée, puis il leur dit, « Les Juifs ont réclamé sa mort à cet homme-là, mais je l'ai trouvé innocent. » Wow, c'est pas la première fois qu'on a un constat comme ça où les Romains déclarent que les chrétiens sont innocents de ce que les Juifs les accusent. Vraiment, c'est un message fort dans les livres des Actes que Dieu a permis que Christ vienne à l'époque de l'Empire romain, et a permis, grâce à l'Empire romain, là, que l'Évangile se répande dans toutes les nations. Et Paul, finalement, a un témoignage d'un païen qui n'est pas un croyant, qui voit de toute évidence qu'il est innocent. Et ce n'est pas la dernière fois qu'il aura ce témoignage-là. Mais il avoue aussi à l'Assemblée qui est présente, Festus, que Paul en a appelé à César et qu'il a jugé bon de l'envoyer, mais qu'il est mal pris. Donc, il avoue honnêtement, humblement, qu'il ne sait pas quoi écrire dans sa lettre à César, et il compte sur cette audience pour l'aider à déterminer quoi écrire, et en particulier, il compte sur le roi Agrippa, qui s'y connaît dans la religion. Mais c'est stupéfiant de voir qu'un simple homme comme Paul, pauvre, a pu prêcher devant tous ses dignitaires, ses tribuns, gouverneurs, même le roi qui est là, et même qu'il s'en va vers l'empereur Néron. Wow! Qui aurait pu imaginer un plan qui aurait permis à Paul d'avoir accès à toutes ces audiences-là, où il peut annoncer librement l'Évangile, et même qu'on lui demande d'expliquer en quoi ce qu'il croit est différent de la foi juive. C'est vraiment une occasion que Dieu a mis à placer comme sur un plateau d'argent. Et c'est vraiment pas ce que Paul pouvait s'imaginer, j'imagine, comme scénario pour évangéliser Rome. Mais Dieu dit, on lit dans Proverbes 19, 21, « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de pensées, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplira. » Et Dieu peut intervenir même dans le cœur des plus puissants. Il peut les contrôler. Il n'y a rien qui échappe à son contrôle. Dans Proverbes 21, on lit, « Le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. » Donc, en conclusion, Dieu veut que nous prenions des décisions au meilleur de notre connaissance, mais conformes à sa volonté. Et La décision de Paul d'aller à Rome était conforme à la volonté de Dieu. Donc, on prend des décisions qui ont un impact réel, mais on y va par la foi, s'assurant que ça plaît à Dieu, que c'est conforme à ce qu'il nous demande, et en croyant qu'il va prendre soin de nous. Et ça, c'est autant pour nos décisions personnelles que nos décisions en Église. On aura encore dans les prochaines années à prendre de nombreuses décisions en Église. À chaque année, on prend une décision pour comment on va utiliser nos finances, notre budget. Très bientôt, probablement qu'on aura à prendre une décision sur l'achat, si oui ou non on va acheter cette église catholique pour en faire notre bâtiment. Éventuellement, on voudrait démarrer une nouvelle église fille aussi. Mais tout cela, c'est des décisions qu'on prend. Dieu nous met cela à cœur, mais il ne nous a pas envoyé un message texte pour nous dire c'est le temps de démarrer une église fille. On y va du meilleur de notre connaissance en écoutant la direction du Saint-Esprit, en observant ce que Dieu s'attend de nous, mais surtout en étudiant la parole et en vérifiant si vraiment c'est conforme à ce que Dieu nous demande. En sondant notre cœur aussi pour voir si on n'est pas en train de se servir nous-mêmes ou en train de servir Dieu. Et pendant ce temps-là, faisons confiance que lorsque nous prenons des décisions et qu'on n'a pas le contrôle sur ce qui va arriver, on y va par la foi, mais Dieu va prendre soin de nous. Combien de fois on s'est demandé si on allait atteindre notre budget là, dans les offrandes. C'est arrivé souvent dans les années passées. Et Dieu a toujours pourvu. Même dans l'année de pandémie où on se demandait même s'il ne faudrait pas qu'il y ait un ou deux pasteurs qui soient mis sur le chômage, Dieu a pourvu même au-delà de ce qu'on avait besoin. Et Dieu va continuer à faire cela. Dieu est un Dieu bon, fidèle, et il va enlever les obstacles devant nos pas. Il va aplanir les sentiers si on marche par la foi avec amour pour lui. Donc, nos décisions nous mènent souvent vers l'inconnu, mais faisons confiance à Dieu. Il va enlever notre peur, il va nous donner la paix. Je vais vous lire en conclusion Ésaïe 26. Il dit, « À celui qui est ferme dans ses dispositions, qui a un cœur ferme, un cœur droit, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel pour toujours, car l'Éternel est le rocher des siècles. » Amen.